Impact. Une émission au cœur du développement durable. Impact. C'est tous les mercredis sur Alger 3.
Pour la petite précision, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonjour. C'est le dernier jour de chacun. Demain, c'est Ramadan el-Kerim. Et comme chaque année, on vous propose une émission qui a trait à l'environnement au sens large durant Ramadan el-Kerim. Il se trouve que, je ne sais pas, et on va en parler jusqu'à 11h, en compagnie de notre principal invité, M. Karim Oman. Bonjour.
Bonjour, c'est Jamil.
Vous êtes expert en gestion et valorisation surtout des déchets. Vous êtes ancien directeur de l'AND, directeur général de l'AND, qui est l'Agence nationale des déchets, sous tutelle du ministère de l'Environnement. Vous avez énormément travaillé sur la valorisation des déchets et comme chaque année, on le voit malheureusement et en totale contradiction avec les préceptes de l'islam, il y a beaucoup de gaspillage alimentaire avant la cuisson, après la cuisson, dans les marchés, dans les lieux publics. Qu'est-ce qui fait que dans un pays musulman comme l'Algérie, dans un pays où nous avons des traditions qui empêchent, qui auraient dû neutraliser cette forme de gaspillage, il y a une persistance du gaspillage alimentaire pratiquement à tous les niveaux, pendant un mois dit qui est sacré pour nous?
Merci beaucoup, Cheikh Hamid. Merci aussi de m'avoir invité pour discuter de cette thématique d'actualité. C'est une thématique universelle qui a été considérée dans le cadre des objectifs de développement durable, notamment l'objectif 12. Et dans le cadre de cet objectif, il est prévu que, enfin, il est demandé à tous les pays du monde de réduire de moitié le gaspillage alimentaire à l'horizon 2030. Nous faisons partie des pays qui ont adopté les ODD. L'Algérie travaille énormément. Et cette question de gaspillage alimentaire, il faut la voir dans son propre contexte. Hein. Le gaspillage alimentaire, ce n'est pas que le ramadan. C'est vrai que par moment, durant le ramadan, on voit un peu des tas de déchets qui s'amoncellent sur la voie publique. Mais là, on pourrait aussi discuter. C'est pas forcément dû au gaspillage alimentaire. C'est peut-être une organisation à revoir. Une organisation de collecte et de transport à revoir durant le Ramadan
Karim,
et voilà, ceci n'empêche que effectivement de visu comme ça, on peut voir qu'il y a énormément d'emballages. Quand on voit beaucoup d'emballages durant le Ramadan, ça veut dire qu'il y a une surconsommation de poissons, et on peut voir aussi malheureusement des produits alimentaires. Maintenant, pour mesurer un peu ce taux de gaspillage, il va falloir mettre en place des études, hein, des études un peu profondes, pas sommaires. Moi, ce qui me revient, c'est une étude faite par la Banque africaine de développement que j'avais.
Abad, oui.
Oui, qui avait énuméré un certain nombre d'indicateurs pour l'Algérie. Mais je rappelle aussi que l'Agence nationale des déchets, là je suis fier des cadres de l'agence dans le temps, qui avait entamé une étude sur le gaspillage alimentaire. Mais attention, le gaspillage alimentaire, ce n'est pas juste au niveau du consommateur.
Oui, bien sûr, c'est toute une chaîne. Est-ce qu'on peut la décliner? Ça commence, pour ce qui est fruits et légumes, sur les champs.
tout à fait.
Pendant le transport, au marché de gros, au marché de détail, pour finir à la ménagère qui parfois achète beaucoup et gaspille surtout les légumes avant d'avoir à les préparer.
Tout à fait. Maintenant, je reviens à une question importante aussi. Dans le cadre du gaspillage alimentaire, on a deux phases. L'ODD 12 a considéré le gaspillage en deux phases. La perte alimentaire, là, ça concerne la chaîne logistique, de la production, de l'aliment lui-même, son transport, son stockage, sa transformation, jusqu'au point de détail. Perte alimentaire et le deuxième, je permets le mot désolé, le gaspillage, en fait, c'est du point de détail au consommateur au niveau des ménages, au niveau de la restauration, et là, c'est autre chose. À l'échelle internationale, la FAO, et mandaté
l'organisation
l'alimentation et de l'agriculture est mandaté pour la perte alimentaire, pour voir un peu l'évolution de cet indicateur. Et le programme des Nations Unies pour l'environnement, le PNUE, est mandaté pour le gaspillage alimentaire. Allez, je partage avec vous des chiffres récents de ces deux organismes. À l'échelle internationale, la perte la perte globale en matière de gaspillage alimentaire a été évaluée en 2024 à 1,3 milliard de tonnes.
1,3 milliard.
Tout à fait. Dont
c'est énorme.
Tout à fait. Dont 13% sont sur le segment perte alimentaire. Et 17% sur le segment gaspillage alimentaire.
D'accord.
Je vais aller un peu plus loin par rapport à ces indicateurs. Les pays développés sont plus dans le gaspillage alimentaire, à la différence des pays en développement ou sous-développés, qui sont plutôt dans la perte alimentaire. Et ceci est totalement justifié par le manque d'infrastructures de logistique et de maîtrise des outils modernes en matière de transport, de stockage et d'agriculture aussi.
Est-ce qu'on peut détailler, c'est-à-dire même que dans un pays du tiers-monde, il y a une bonne année agricole, c'est la chaîne logistique, le manque de moyens de stockage, de chambres froides, qui fait que nous avons des pertes avant la mise sur le marché. C'est cela.
C'est pour ça que j'insiste pour dire qu'il est temps d'aller dans le détail par rapport à ces questions. Il est temps d'engager une étude profonde par rapport à ces aspects-là. Et ces études-là vont permettre de mettre en place une stratégie nationale pour faire face à la perte et au gaspillage alimentaire.
Donc la perte, c'est en amont.
Tout à fait.
Et on peut prendre des tas d'exemples. Chacun n'est que Dieu fait. Il y a des programmes de soutien aux agriculteurs. Il y a des programmes de soutien entre guillemets, les stockistes, ceux qui sont chargés de mettre en place des chambres froides pour pouvoir assurer le stockage, la chaîne logistique, le transport et tout le reste. Et tout cela doit, in fine, permettre de faire baisser les pertes alimentaires, le pourcentage de ces 13%. On rappelle que c'est quand même effarant, 1 milliard 300 millions de tonnes de pertes alimentaires chaque année.
Tout à fait.
Au niveau de la planète. Alors qu'on a, en face, des pays qui ont une famine chronique. Il y a des millions de morts chaque année à cause de la malnutrition et à cause de la famine. Et malgré cela, la planète enregistre 1 milliard 300 millions de tonnes par an de pertes alimentaires.
De gaspillage alimentaire,
oui.
Dans toutes ces dimensions, dans ces segments, dans toutes ces dimensions.
Pertes
et gaspillage.
Et la perte, on l'expliquera encore une fois, c'est tout ce qui est en amont, de la ménagère. Et le gaspillage, c'est ce qui en aval, c'est-à-dire que ce soit chez la ménagère, dans les foyers ou dans les espaces de restauration.
Tout à fait.
Collectif.
Tout à fait. Voilà, donc si on arrive à mettre en place une étude qui va nous faire sortir des indicateurs qui pourrait refléter la réalité du contexte algérien. Tout ça va permettre justement d'adopter des politiques de réduction et de réduction de ce fléau en fait. Et pour que ces indicateurs soient bien faits et bien définis, il faut que ça, le travail se fasse durant tous les mois de l'année.
Est-ce qu'il se fait? Est-ce que en Algérie nous avons des communes pilotes où on peut mesurer certains paramètres? Nous sommes dans un pays où il y a une floraison, une éclosion de start-up. Les jeunes s'intéressent à tout. Il y a, vous avez l'habitude de dire ici même et ailleurs dans vos conférences, nos déchets valent de l'or. Dans ces déchets, il y a bien une partie relative aux pertes ou au gaspillage alimentaire. Il y a de l'argent à se faire dans ce secteur?
C'est Hamid, en fait, au-delà du principe, de l'aspect gaspillage alimentaire, c'est un flux à considérer.
Oui.
C'est de la matière organique. Même si on arrive à réduire d'une manière drastique le gaspillage alimentaire, le reste, il doit être géré. Géré en tant que filière.
On prend un exemple, si vous permettez.
Oui, bien sûr.
Pour que les auditeurs puissent en prendre. On a un plan de développement de l'agriculture. Il y a des aides parfois plus que très conséquentes en termes d'aide aux agriculteurs, pour produire mieux et pour produire plus. Les agriculteurs le font. Ils mettent sur le marché des quantités parfois astronomiques de fruits et légumes frais qui vont aller vers les marchés de gros où se déroulent les principales négociations, tractations commerciales. Est-ce qu'au niveau des marchés de gros, lorsqu'il y a des résidus de fruits ou des légumes, il y a un cheminement pour aller vers la valorisation de ces déchets de fruits et légumes vers de la fertilisation agricole ou du compost ou autre? Est-ce que c'est des filières qui sont organisées?
Tout à fait. Enfin, mais on doit commencer par la donnée, par l'information. On doit connaître ce qui est produit au niveau de tous les maillons de cette chaîne.
Une traçabilité parfaite.
Tout à fait. Dès qu'on a ces données, on peut développer des politiques de prise en charge et des plans d'action aussi. Hein. Cette matière organique, on peut la transformer en fumier biologique. On peut la transformer en aliment de bétail.
En aliment de bétail.
Tout à fait. Et je pourrais vous citer des cas, des exemples. On pourrait la transformer en énergie aussi.
Biocompost.
En
et au-delà.
Énergie dans le sens large. Hein. Voilà. Donc là c'est des choix à faire en fait. C'est des choix à faire après avoir pu développer tous les indicateurs qui peuvent nous orienter vers les politiques idoines pour justement prendre en charge cette question. Maintenant...
Oui.
C'est Hamid, vous parliez tout à l'heure des start-up. Tout à fait. Donc, le monde est en train d'évoluer. Donc, ce qu'on pouvait faire en 5-6 années en matière d'études, on peut le faire très rapidement avec les start-up, notamment les start-up qui peuvent maîtriser l'intelligence artificielle. Tout ça peut être valorisé au profit d'une meilleure gestion de ces questions-là.
Ça accélère
tout à fait.
Le fait de trouver une solution. J'aimerais bien que l'on s'arrête un moment sur un aspect où il y a un grand nombre de marchés de gros où il y a de la perte alimentaire, fruits et légumes, qui deviennent, j'allais dire, invendables parce qu'on a dépassé le temps. Vous avez cité un exemple comme solution possible à ces denrées périssables, c'est l'aliment du bétail. Sachant qu'en Algérie, c'est une vraie problématique. Il y a des fluctuations de l'aliment du bétail telles qu'il y a une fluctuation du prix, par exemple, des viandes blanches. Parce qu'il y a une fluctuation de l'aliment du bétail. Est-ce que l'on ne pourrait pas croiser les données et permettre de trouver un début de résolution à cette équation?
Justement, croiser les données, c'est le mot qu'il fallait en fait. Croiser les données pour identifier les meilleures stratégies et solutions pour cette problématique. Maintenant, c'est des flux qui sont générés au quotidien. Et la quantité Et la qualité diffère d'une saison à l'autre. Ramadan, c'est plutôt, pour moi, Ramadan, c'est plutôt plus d'emballage. Plus d'emballage. C'est vrai qu'il y a plus de déchets organiques aussi.
Plus d'emballage. Est-ce que justement, on revient à la donnée, est-ce qu'il y a au niveau de la base, la cellule de base en Algérie, c'est les communes, au nombre de 1541. Il y a 1541 communes en Algérie. Quelles sont celles qui ont pu développer un système statistique pour pouvoir dire, pendant Ramadan al-Karim, il y a plus d'emballage ou pas? C'est juste pour affiner le processus de collecte de la donnée.
Moi, je crois que c'est justement c'est le chemin à aborder. Moi, honnêtement, je n'en connais pas de communes qui ont abordé ces questions-là de cette manière-là. Mais il va falloir qu'ils changent de cap et qu'ils voient le déchet en termes de données déjà.
Avant d'être une valeur.
Tout à fait. C'est la donnée qui va valider la valeur du déchet qui est généré, n'est-ce pas? Ouais. Donc, moi, je pense que il est grand temps pour les communes de quantifier leurs déchets, de voir l'évolution saisonnière et ouvrir le champ à des opérateurs qui soient publics ou privés pour valoriser ces déchets. Et il va falloir aussi se fixer des objectifs à niveau national et local. Parce que quelqu'un qui va venir investir dans ce domaine-là, il doit être au courant des objectifs nationaux en matière de récupération et de valorisation.
Dans le cadre de la préparation de cette émission, j'ai essayé de faire un petit tour du côté est d'Alger, où il y a un grand quartier de grossistes, c'est El Hamiz, pour ne pas le citer. Il y a une tendance cette année qu'on va devoir étudier avec beaucoup de détails, c'est le développement de, ou la frénésie de l'achat d'un appareil électroménager, l'air fryer. Et donc, oui. Et il y avait des tonnes, ou plutôt des mètres cubes, de cartons à El Hamiz, et je me demandais, je ne voyais pas d'espace de collecte du carton, qui est une valeur marchande. Pourquoi? Tout simplement, pourquoi est-ce que El Hamiz, connu pour abriter une grande activité commerciale, il n'y a pas de point de collecte du carton qui est généré peut-être par centaines, voire milliers de mètres cubes par jour?
C'est vrai que ce n'est pas visible, mais je peux vous rassurer, c'est Hamid, il y a une activité de récupération de déchets de carton. C'est une activité très intense en Algérie, et moi je suis très content d'apprendre aussi qu'il y a 3 ou 4 grandes unités de valorisation du papier carton. Déjà quelques-unes qui sont en activité, d'autres qui vont venir pour très bientôt. Là, parce que je suis désolé, mais le papier carton, c'est un secteur très stratégique. Voilà. Donc, il y a de la récupération, pardon, c'est Hamid.
Oui,
il y a de la récupération. Elle n'est pas visible. Il n'y a pas de point de collecte, malheureusement. On aurait aimé voir.
Pourquoi la non-visibilité, justement? Le citoyen que je suis constate, vous dites que ce n'est pas du tout le cas. Et donc, c'est quoi le chaînon manquant, le phénomène? La pratique est là, il y a du carton qui est entreposé, et vous dites que c'est pris en charge. Comment s'opère cette prise en charge que nous ne voyons pas? C'est quoi, c'est de l'informel?
Si on cite le cas de Hamiz,
oui.
Hamiz fait partie d'un territoire.
Bien sûr, c'est la commune d'Arbeda.
Barclofik. Donc c'est à la commune de s'organiser dans ce sens.
Peut-être la commune de Darbeda ayant une zone industrielle et un aéroport, sa fiscalité est florissante, elle ne braque pas ses projecteurs sur le Hamiz, peut-être.
Non, mais écoutez, quel que soit, il faut que la commune mette en place un système de gestion des déchets. Et les déchets de commerce font partie. Et là, j'attire votre attention sur autre chose aussi. Tout ce qui est achat en ligne, ça génère beaucoup d'emballage aussi.
Oui.
C'est des nouveaux gisements. Ouais. Donc, moi, je crois qu'il est temps de voir les choses autrement déjà, de s'organiser et de développer des schémas directeurs avec une connotation économique. Il n'est plus question juste de collecter, transporter et évacuer. Il est question de booster l'activité de récupération, booster l'activité de valorisation. Et là, si la commune entreprend, pouvait mettre tout ça en œuvre, ça a gagné en matière de fiscalité locale, en matière
d'emploi,
tout à fait, et aussi en matière de réduction des déchets qui sont orientés, dirigés vers l'enfouissement technique. Et là, c'est vite visible. n'est-ce pas?
On ne va pas saturer les centres d'enfouissement technique.
Tout à fait.
On part du gaspillage alimentaire, des pertes alimentaires, et on se retrouve en train de parler d'emballage. C'est intimement lié parce que les produits alimentaires
sont emballés
en consommant plus.
Ça va de pair.
Ça va de pair.
Oui.
Et c'est ce qu'on doit expliquer. En consommant plus de produits alimentaires, ces produits sont fortement emballés et donc on consomme quelque part plus d'emballage qu'il va falloir gérer. Plus on consomme de l'aliment, plus on consomme de l'emballage, plus on produit de l'emballage, plus il va falloir le gérer par quantité incroyable.
Si on prend le cas du pain, par exemple,
oui.
On en consomme beaucoup durant le mois de Ramadan.
Oui, malheureusement. On en achète beaucoup, peut-être qu'on n'en consomme pas autant.
Je le dis en termes d'achat.
Oui,
en
achat,
termes d'achat,
oui.
Tout à fait. Donc, si on achète beaucoup de pain, c'est-à-dire qu'il y a une production, un circuit de production au niveau des boulangeries.
Oui.
Ceci suppose aussi un achat supplémentaire de farine, de semoule,
de matières premières,
d'ingrédients de base. Donc tout ça fait aussi des emballages.
Oui. Qu'il va falloir gérer.
Tout à fait, tout à fait. Moi je dis que Ramadan, malheureusement Ramadan, moi je considère la gestion des déchets durant Ramadan comme une gestion exceptionnelle.
Exceptionnelle.
Ouais, moi je le dis toujours parce qu'il y a un surplus de production de déchets. Il n'y a pas que ça. L'agent de collecte, c'est un être humain comme nous.
Heureusement.
Voilà. Donc, il subit le poids de l'emballage comme nous, n'est-ce pas? Donc, il est fatigué, surtout à partir de la deuxième semaine. Il est fatigué, donc le rendement va baisser.
Au moment où la production, entre guillemets, des déchets augmente, le rendement diminue, ça crée des...
Par contre, note un peu positive, à travers les réseaux sociaux, ce que disent les gens, il y a de moins en moins, plutôt les gens sont beaucoup plus sensibilisés à la question du gaspillage.
Et ils sont plus sensibilisés.
C'est un point positif. Donc c'est un point de départ intéressant pour construire des approches de réduction de cette problématique majeure.
Eh bien, et justement, comme solution, on va voir du côté de Gherdaïa où nous allons retrouver notre correspondant très actif, Mahfoud Kirkar.
Le gaspillage alimentaire, ce phénomène s'impose à l'occasion du mois sacré de chaque année. Ici à Gherdaïa, il existe une conscience chez les citoyens qui fait face au gaspillage alimentaire, sans oublier les efforts du mouvement associatif, à l'image de l'association Tissit à Binisgen, qui déploie des efforts pour sensibiliser au sujet du gaspillage alimentaire. Écoutons le président de l'association Tissit, Belhaj Karim.
C'est vrai qu'il est clair, notre société prend sa source dans les principes fondamentaux de l'islam, lequel nous enseigne que le gaspillage en général et alimentaire en particulier est carrément proscrit jusqu'au point où dans le Saint-Coran, Dieu décrit les gaspilleurs comme étant les frères des diables. L'association Tissit s'est donnée comme autre mission de combattre le gaspillage alimentaire par des actions sur le terrain, par des campagnes de sensibilisation, premièrement auprès des commerçants pour diminuer l'utilisation des sacs de caisse en plastique, mais aussi auprès des consommateurs pour les encourager à faire du tri sélectif et de leurs déchets ménagers, récupérer tout ce qui provient de l'alimentation pour en faire du compost ou de la nourriture aux animaux, comme cela se faisait chez nous jadis. Pendant le mois de Ramadan et du fait du jeûne, on remarque que les gens ont tendance à acheter par désir et non par nécessité, comme si la nuit venge la privation de la journée. Donc n'oublions pas que nous mangeons pour vivre et pas vivre pour manger. Et qu'à la base, nos ancêtres nous ont appris qu'il ne faut pas faire confiance à la vie et qu'il faut toujours vivre un peu dans l'austérité.
Tefilet Tejdit, ce joyau architectural à travers sa fondation Amidoul, a initié un système ingénieux pour récupérer les déchets organiques tout en encourageant les habitants à coopérer avec l'idée. Haj Omar Yagoub, conseiller technique Fondation Amidoul, تفيلل تجديد بنزغان
pour qser tafilal tbinizgan wilaya de hordaya commune de bounra bien sûr on a une ligne directrice dans le sens de la propreté de la cité on tâche à ce que la cité soit propre cela nous amène à aborder le sujet des déchets organiques et assimilés. Bon, la Fondation Emidoul Tefilet, on est partenaire à l'Agence nationale de traitement des déchets, on est partenaire officiel et déclaré, et on a signé même une convention. Le but de cette convention, c'était du point de vue technique pour faire face à le traitement des déchets. Et en plus de ça, décrocher un projet avec le PNUD qui s'intitule « Traitement des déchets et assimilés ». Déjà avant tout ça, la Fondation Amidoul elle a injecté une expérience qui a donné ses fruits. Comment amener les gens à nous assurer un tri de déchets organiques. Bien sûr, la cellule familiale, elle a des épluches de légumes, le restant du pain, le restant du manger et tout ça. Donc, pour ne pas perdre, ne pas gaspiller ces éléments-là, on a créé un système de convention avec un échantillonnage de population et comme la Fondation a un éco-parc animalier de divertissement et tout ça, et on a des animaux, on a dit pourquoi pas, on va faire un modèle de convention avec les citoyens où ils nous ramènent des déchets organiques traités. Au bout d'une période, un mois et demi, tout ça, en guise d'encouragement à cette famille, on leur donne un litre de lait de vache et une petite plaque d'œufs et un poulet. Parce que ça a un sens éducationnel et de sensibilisation. Et on a amélioré cette initiative à partir où on a entamé le projet avec le PNUD. Et on a revu ce mode de partenariat avec les citoyens et on l'a élargi. On a créé un système de bac d'une façon est réparti dans différents quartiers. C'est un bac conçu techniquement pour que le citoyen il ne jette que les déchets organiques. Il ne jette pas autre chose. Donc nous, on fait le ramassage. Donc ce qui fait, on souhaite à travers cette opération à avoir une collecte ou un déchet propre et net. C'est-à-dire, on fait un partage entre le déchet, tout ce qui est déchet organique, on le sépare du déchet lourd. Ce déchet lourd où il se jette à la décharge publique. Et notre opération, elle est continuelle. On aspire à créer une mini-déchetterie sur place, dans le cadre de la vision globale d'une cité totalement écologique. Donc, ce qui fait que quand on aura notre petite déchetterie, il y aura un traitement de tri sélectif d'une façon globale. Et ça, il s'inscrit dans le cadre de l'économie durable, où on a une petite opération expérimentale où on peut, avec la collecte des déchets organiques, on peut obtenir un compost, un engrais pur et naturel. On souhaite y arriver et ça fait partie du plan d'action de la Fondation Emidoul Qasr Tefilet.
Il faut souligner encore la campagne de sensibilisation annuelle organisée par le secteur du commerce contre le gaspillage alimentaire, une campagne qui se déroule jusqu'au 15 mars, journée mondiale du droit des consommateurs. De Redaya Mahfoud Kerker pour Algechin 3.
Impact. Une émission au cœur du développement durable. Impact, c'est tous les mercredis sur Algechin 3. Impact, présenté par Hamid Belkhassem.
Et Mahfoud Kerker, que nous saluons, Mahfoud Kerker à partir de Redaya, qui prouve un certain nombre de choses. D'abord, une réaction sur ce que disait le président d'une association, Karim Belhadj. Nous mangeons pour vivre et non, nous vivons pour manger. Un mot
sur... Ben, il a raison.
Il a raison. Raison. Il
donc,
a tout à fait raison.
Je ne dois manger que ce que je peux manger.
Et parce que souvent, et pendant Ramadan al-Karim, nous vivons pour manger, que l'on se retrouve à gérer des déchets, Redaya et Qasr Tefilet nous montrent, grâce à la fondation Tefilet Emdoul, comment, en tant que citoyen respectueux de l'environnement et respectueux de la vie, on arrive à joindre les différents maillons de la chaîne. Tout est récupérable. On a l'impression que Lavoisier est né à Redaya, M. Karim Waman.
belle réflexion, en fait. Moi, j'ai noté une phrase très intelligente et très importante aussi par rapport à notre ami de Tefilet. C'est la qualité du déchet. Donc, si le déchet n'est pas, si le déchet organique n'est pas trié à la source, donc il risque pas de produire un animal de bétail ou autre chose, ou un fumier pour l'agriculture.
C'est le premier acte de la valorisation, valoriser à domicile le déchet en le triant.
Tout à fait. C'est le premier acte, geste à faire, en fait. Écoutez, si on prend le sac poubelle, en Algérie, c'est pratiquement 53%, c'est de l'organique, n'est-ce pas? Mais en plus de l'organique, il y a aussi des déchets dangereux, type piles, seringues, médicaments, n'est-ce pas? Tout ça, cette fraction organique, elle doit être séparée de tout le reste pour qu'elle puisse être orientée vers des filières de valorisation. N'est-ce pas?
Oui.
Donc si on ne fait pas ce geste, et c'est ce geste en fait qu'à développer, à étudier, à planifier. Donc le citoyen, si on lui demande de d'oser et de faire ce geste, il faut que la logistique suive aussi.
Quand vous dites logistique, on l'a vu, c'est un travail, encore une fois, magnifique, fait par notre correspondant Mahfoud Kerkar à Ghardaya. C'est un exemple à suivre. L'Algérie, c'est un pays, c'est un État social qui investit beaucoup. Au niveau de la cité, l'acte de vivre, il y a un formidable encouragement de l'État pour tout ce qui est habitation collective. Il y a des centaines, voire des milliers de cités, notamment la formule la plus adoptée et par les pouvoirs publics et par la population, la formule AADL, pour agence, pour l'amélioration et le développement du logement. Est-ce que vous pensez que dans les cités type AADL, amélioration et développement, on ne peut pas prendre comme modèle et se projeter, comme le fait très bien la fondation Amidoul dans le Qsar de Tafilelt? Est-ce qu'on pourrait faire tout simplement, j'allais dire tout bêtement, avec tous les respects qu'on doit aux gestionnaires des cités, tout simplement du copier-coller le protocole de traitement des déchets au niveau de Qsar Tafilelt? Est-ce qu'il ne doit pas être généralisé au niveau de toutes les cités?
Sahamid, en fait, il faut démarrer d'un objectif, n'est-ce pas?
Oui.
Je veux faire quoi à partir de ce flux de déchets? À quel taux, n'est-ce pas? Par la suite, il y a mille une façons d'aborder les sujets. Moi, je suis partisan, je fais partie des gens qui insistent sur la nécessité d'inciter le citoyen ou le producteur de déchets organiques, je suis désolé, de procéder au traitement ou à la valorisation de son flux de déchets in situ, chez lui. Moi, je pourrais aller plus loin. Moi, je suis pour le financement en partie de petites machines, comme ça se passe partout dans le monde, qui vont permettre aux citoyens de les acquérir. C'est comme le chauffe-bain solaire.
Oui.
S'il y a une subvention, c'est pour ça que je parle d'objectifs et des attentes des pouvoirs publics. Je finance en partie, c'est une contribution, c'est une incitation aussi pour le consommateur de traiter ou de réduire la fraction organique chez lui. C'est la meilleure façon de faire. Maintenant, le reste, il faut qu'il soit regroupé et évacué sur des filières spécifiques à la fraction organique. Il ne faut pas que ça soit en mélange avec les autres déchets. Moi, je connais un pays, par exemple, la Corée du Sud. C'est le leader mondial, en fait, par rapport aux déchets organiques. Ils ont pu, entre 2005 et jusqu'à la date d'aujourd'hui, de valoriser 98% des déchets organiques qui sont générés par les... 98%. C'est des chiffres vérifiés et vérifiables. Vous imaginez 98%. Et pour ce faire, ils ont mis en place beaucoup de choses. L'incitation à traiter in situ, quand il y a la possibilité.
Alors l'incitation, justement, à Ghardaya, au sort de Tafilelt, il y a une incitation.
Tout à fait.
On l'a si bien
je salue cette initiative.
Et qu'est-ce qu'il y a? Il y a une récupération, entre autres, de la fraction organique au niveau des domiciles. Qui la ramène ou qui est collectée au profit de qui? Du parc animalier du Qsar Tafilelt Tejdit, le nouveau Tafilelt, parce qu'il y a l'ancien, et ce nouveau a une organisation sociale qui va dans la performance. Résultat des courses, la fraction organique est collectée, le pain est collecté, il est envoyé vers le parc animalier, et à la fin du mois, vous avez un retour sur cet investissement de collecte à travers des œufs, du lait de vache frais.
Tout à fait.
Et un poulet. Il y a quand même quelques... C'est du win-win, c'est du partenariat gagnant-gagnant.
Tout à fait.
D'un côté, on réduit toute la fraction organique, donc il y a moins de rotation des camions de collecte des déchets ménagers. Et de l'autre côté, vous avez quelque chose en retour.
On a besoin aussi de... C'est vrai, c'est une belle initiative. Disons, il faut l'exploiter, cette initiative, pour la répercuter sur des régions qui ont le même contexte, en fait.
Est-ce que sans avoir... Parce que, bon, c'est un ksar, il est bien géré. Le retour se fait, j'allais dire, en denrées alimentaires, donc en circuit fermé. Est-ce que ce retour, si jamais l'expérience de Rsartafil al-Tajdit et on fait du copier-coller dans les cités ADL, on ne va pas avoir, au lieu d'avoir des denrées alimentaires, on va avoir une meilleure gestion de la cité, avoir des espaces verts, des espaces de jeu, des systèmes de réduction du volume des déchets à travers les machines qui peuvent être financées juste par la récupération in situ de la cité.
Je dis que l'expérience de cette filette, elle est intéressante, mais pour la répliquer, il faut l'analyser dans le fond et voir la possibilité de l'appliquer et de la répliquer sur différents contextes. On a besoin de faire des essais ailleurs.
D'accord, mais c'est pas difficile, si vous permettez, Monsieur Waman. Nous avons une quantité, j'allais dire, anormalement élevée d'instituts de management, de gestion, d'université, des sociologues, des économistes qui doivent aller à Rsartafilet, scanner ce qui doit être scanné, le copier et le répartir à travers toutes les cités qui sont financées par le Trésor public et qui sont très souvent, malheureusement, mal gérées.
J'adhère à votre appel, Cheikh Hamid. Là, il faut que tout le monde s'implique, surtout les institutions spécialisé et mandaté pour ce genre d'études. En plus de ta filette, moi je vais partager avec vous deux autres types d'incitations, juste pour dire que comment on devrait réfléchir. Je reviens vers le cas de la Corée du Sud. La Corée du Sud, les gens là-bas, ils payent la taxe sur les déchets selon le poids qui est... Vous imaginez un peu...
Là, ah, on va jusqu'au détail.
Tout à fait.
Ça veut dire que le sac poubelle de M. Karim Waman est pesé.
Tout à fait.
Et M. Karim Waman s'acquitte de la taxe sur les déchets ménagers en fonction de ce qu'il a produit comme déchets.
En fait, Karim Waman, dans ce contexte-là, va avoir trois sacs. Un sac pour les emballages, tout ce qui est recyclable. Un sac pour les déchets alimentaires. Et qui sera transparent, bien évidemment, pour que les gens, pour les
travailleurs contrôlent.
Tout à fait. Et un sac pour le reste. Vous imaginez?
Pourquoi est-ce qu'il est transparent, M. Waman?
Pour que l'agent puisse vérifier de visu.
D'accord.
Voilà.
C'est une transparence dans l'acte de gestion.
C'est une forme de transparence, tout à fait. Et là, ils ont des appareils dotés d'outils technologiques modernes qui peuvent peser les gens, peser les différentes fractions. Et le fait de trier, vous payez moins.
C'est magnifique.
Bien sûr. Je vais vous citer un autre cas.
Ça a un coût, l'investissement pour pouvoir peser,
tout
trier,
tout
constater.
A un coût, mais il va falloir faire un coût global, une étude globale sur les coûts, à un niveau macro, n'est-ce pas?
Bien sûr.
Bon, ce que calcule l'État, les pouvoirs publics, n'est pas le même calcul qu'une ménagère, n'est-ce pas?
Bien sûr.
Je vous cite un autre exemple aussi. L'exemple de l'État de la Californie aux États-Unis. Pour ce type de déchets, l'État de la Californie incite les opérateurs à venir récupérer et valoriser ces déchets organiques. Et l'État de Californie garantit la reprise du fumier produit par le traitement de
Et il le reprend.
Bien, ils vont...
C'est un circuit fermé.
C'est une incitation. Ça coûte cher un peu. La gestion des déchets organiques, ça coûte cher, n'est-ce pas? Donc c'est une incitation aussi. Et l'État de Californie utilise ce fumier, ce compost, dans ces espaces verts. Voyez. Donc c'est des formes d'incitation. Maintenant, les contextes diffèrent.
En Californie, parce qu'il y a Arnold Schwarzenegger qui tape sur la table, pas forcément lui. Mais c'est juste pour dire, quand il y a une décision forte, ça veut dire que pour développer et maintenir, entretenir les énormes espaces verts, l'État de Californie n'a pas besoin d'acheter du biocompost. Il a à titre gratuit parce qu'il a mis en place en amont un système de gestion.
Parce qu'il va diminuer déjà les coûts de traitement de cette fraction organique. Oui, donc déjà, c'est un calcul à faire. Et moi, je dis que l'expérience de Tefilet, elle est intéressante, mais il faut approfondir un peu l'étude, enfin, ce qui se passe là-bas, pour voir la réplicabilité, comment se faire, comment appliquer ce même concept ailleurs. Parce que les contextes diffèrent, n'est-ce pas?
Mais qu'est-ce qui manque? Tefilet est là. Le reportage fait par Mahfoud Kerkar est saisissant. Nous avons une centaine, et nous sommes très fiers d'avoir un tissu d'université, de centre universitaire très important. Comment faire le lien? Il y a une problématique, gestion des déchets, à travers les 69 wilayas. Il y a un exemple parfait, magnifique, idéal, idoine, à Qasr Tefilet. Comment faire venir une partie de cette centaine de centres universitaires, les amener à s'intéresser à l'expérience de Qasr Tefilet Tejdit pour la dupliquer dans l'espace et dans le temps? Quel est le chaînon manquant?
Moi, je pense qu'il faut afficher ces objectifs.
Qui doit les afficher?
Il faut que les pouvoirs publics affichent...
Les collectivités locales, principalement.
La stratégie nationale, c'est le ministère de l'Environnement qui est mandaté pour mettre en place une stratégie nationale. Il faut que les objectifs soient affichés.
Clairement définis.
Ils sont définis. Et à partir de cela, les gens vont commencer à s'intéresser. Et notamment l'université. Quand on a des objectifs, quand les collectivités locales seront tenues d'atteindre ces objectifs, donc il va y avoir une commande derrière, un intérêt pour atteindre ces objectifs. Quand il y a cet intérêt, donc d'emblée, l'université sera appelée pour trouver des solutions, université et aussi les start-up,
bien sûr,
qui seront là pour trouver les solutions. Moi, je dis toujours que si on n'a pas d'objectifs, s'il n'y a pas une commande derrière,
vous parlez d'objectifs, vous parlez de commande, vous parlez d'investissement. On a l'impression que c'était aussi un acte commercial. Est-ce que les collectivités locales, en termes dans le chapitre ou la haut chapitre gestion valorisation des déchets, ne devraient pas penser à avoir une sorte de contre-programme, obligation de résultat?
C'est pour ça que je parle d'objectif.
Oui.
Quand il y a un objectif, ça va se répercuter sur le modèle de fonctionnement, n'est-ce pas? Donc, et ce modèle de fonctionnement, ou ce système de fonctionnement, qui sera greffé à un objectif, et ceci va pousser les collectivités locales à ouvrir le champ à différents acteurs, l'université, les start-up, les investisseurs publics ou privés, pour sortir justement de cette logique collectée, transportée et éliminée.
Avec une plus-value, la valorisation qui permet de créer de la richesse, de l'emploi. On l'a vu en Californie. On aurait pu le voir, hein. Je pense qu'une étude affinée sur le schéma de collecte au Qasr Tefilet, avec un autre Qasr dans la même wilaya ou ailleurs, va nous dire que je suis pratiquement sûr, et certains, vous allez nous le dire ou me contredire, il y a moins de rotation des camions de collecte de déchets. Donc, moins d'investissement sur les engins de collecte parce qu'il y a en amont un système de tri, de valorisation des déchets.
C'est normal.
C'est normal.
C'est
un coût, hein, le traitement des déchets. La collecte a un coût. Il faut investir dans des camions, dans des bennes tasseuses. Ça coûte très cher, c'est à partir de 20 millions de dinars.
Oui.
C'est quand même pour une collectivité, pour une commune. Oui. C'est un budget impactant.
Mais il y a des... Écoutez, c'est vrai que... C'est pour ça qu'on parle d'objectifs. On ne peut pas trier la totalité de ce qu'on génère, ouais, n'est-ce pas? Les objectifs, c'est par rapport à nos moyens aussi, immédiats et à venir. Donc, ces objectifs, justement, vont permettre de planifier la gestion des déchets. Et planifier la gestion des déchets aussi, on ne va pas juste planifier la collecte et le transport. On va aussi planifier l'investissement. Pas uniquement sur le segment collecte et transport, aussi en matière de valorisation.
Qui le fait? On a l'impression, très souvent, hein, on ne le répétera jamais assez, l'Algérie c'est un état social, il y a souvent des milliers de logements qui sont distribués à la veille de Ramadan el-Karim, et donc vous allez trouver des milliers de familles qui vont parfois On a des cités 2000, 2000, 3000 logements dans une même commune, une, deux cités. On va avoir le déplacement pendant Ramadan el-Kerim de 5000, voire 10 000 citoyens d'un point, d'une commune à une autre. Ça perturbe un petit peu le système de collecte. Est-ce qu'il y a en amont un système qui pointe la collecte des déchets, qui l'organise et qui s'adapte lorsqu'il y a inauguration ou remise des clés d'une nouvelle cité? Le gestionnaire local, il opère comment?
Le gestionnaire local, il a en face de lui un tableau de bord.
Il a un tableau de bord.
Tout à fait. Ce tableau de bord vient à travers une étude de schéma directeur. C'est les outils de base. C'est les outils de base en matière de gestion locale.
Permettez-moi d'insister là-dessus. Les communes sont dans l'obligation d'avoir ce tableau de bord, schéma de collecte des déchets ménagers.
Le bon sens aussi fait que la commune ne devrait pas naviguer à vue, n'est-ce pas? Donc, il doit disposer d'indicateurs et suivre ces indicateurs de gestion. Et il faut que la commune aussi change de cap. Il n'est plus question de collecter et d'évacuer et d'éliminer. Il est question de faire ses calculs aussi, notamment ses calculs de coûts. Si je fais du tri, ça va me rapporter quoi pour la collectivité? En matière d'emploi, en matière de fiscalité locale, et en matière de facture de la gestion des déchets. Donc, si on se fixe des objectifs et on maîtrise ces aspects-là, moi, je crois qu'on va changer de cap et on va rentrer plein dans une logique de gestion économique des déchets et on doit y aller. Moi, je viens de, si vous permettez, Sahamid,
oui, bien sûr.
De temps en temps, j'écris des articles, je vais essayer d'attirer l'attention sur des aspects.
Très prolifique hein, pour les gens qui vous
Merci
suivent.
Merci beaucoup, Sahamid. Donc, je viens de signaler une question très pertinente, les déchets verts. Ouais. On produit énormément chez nous. J'ai expliqué qu'à travers les déchets verts, la collectivité locale peut devenir un fournisseur de fumier ou de compost à l'activité agricole. Vous imaginez?
Oui.
On a cette politique nationale de verdissement. Il faut profiter de ce qu'on génère des déchets. Au lieu que ça aille vers les décharges, ça produit des gaz à effet de serre.
Ça encombre, c'est des volumes, c'est des tas.
Tout à fait, c'est de la fraction organique, c'est une perte sèche.
C'est une empreinte carbone, vu qu'on est tenu d'évacuer par des camions entiers à longueur de journée vers les centres d'enfouissement technique.
Alors que c'est de la matière première à notre disposition. Si on l'exploite, les collectivités locales peuvent devenir un acteur principal de l'activité agricole.
Le tableau de bord, est-ce qu'il y aura dans un futur proche une étude visant une cité, la cité X, dans une ville dite nouvelle comme Bouinane ou Sidi Abdallah, une cité de 1000 logements, dans laquelle donc il y a 1000 familles, qui produit tant de déchets, qui pourraient être valorisés, style Ramadan el-Karim, chaque famille consomme 3 à 4 litres, donc 3 à 4 bouteilles en PET, par 1000, ça fait 5000 bouteilles en PET par jour, plus les différents emballages. Qu'est-ce que ça pourrait ramener comme masse financière au profit de la collectivité et de l'emploi? Est-ce que l'on pourrait affiner ce genre d'études et par qui?
Il y a deux aspects à considérer dans cette approche, par rapport à cette approche. Il y a des coûts directs et des coûts indirects. Il y a des bénéfices, une rente directe et une rente indirecte. Pour une commune, ce n'est pas l'épicier du coin. La commune doit faire un calcul à niveau macro, n'est-ce pas? Ce qu'elle peut gagner en matière de réduction des coûts déjà.
Réduction des coûts, c'est-à-dire le nombre de rotations et de camions dans cette cité.
Pas
entre autres.
Ce que coûte réellement la prise collecte, en charge de la gestion des déchets au niveau de cette cité. Le fait de trier, ça réduit aussi les rotations. Le fait de trier, ça provoque un marché local aussi, en matière de création d'entreprises et d'emplois. Et le fait de trier aussi, ça réduit les volumes de déchets qui sont orientés vers l'enfouissement.
C'est plusieurs coups.
Donc la commune va voir sa facture d'enfouissement se réduire progressivement.
Sa facture de collecte, son le coût de maintenance de sa flotte de Bentasseuse.
Tout à fait, tout à fait.
Le coût d'exploitation, c'est-à-dire il y aura moins de chauffeurs à payer peut-être, moins de carburant, moins d'assurance. Et en contrepartie, création d'emplois, parce qu'il va falloir de la main-d'œuvre pour collecter, récupérer, valoriser. Quelque chose que nous gaspillons malheureusement beaucoup durant Ramadan el-Karim, le pain, les déchets organiques et les déchets d'emballage.
Tout à fait.
Ça fait beaucoup de choses à valoriser.
Tout à fait. C'est pratiquement 80% du sac poubelle.
80%.
Tout à fait.
Donc, qui pourrait rapporter gros.
Tout à fait.
Et faire diminuer la facture de collecte aux collectivités.
C'est clair que la collectivité locale ne va pas pouvoir tout trier.
Du tout.
Voilà. Donc, c'est important d'avoir un objectif.
D'accord.
À atteindre un échange, une date donnée en matière de tri. Et cet objectif va permettre de planifier les actions, planifier les acquisitions, planifier le recrutement.
Pourquoi est-ce qu'il y a, avec toute votre expérience, vous êtes expert, ancien directeur général de l'Agence nationale des déchets, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas eu une commune ou une cité pilote? Nous avons, tant en parcours l'Algérie, il y a plein de plaques, cité verte, mais est-ce que le fonctionnement de cette cité est vert aussi? Est-ce qu'il n'y a pas, et pourquoi il n'y a pas, est-ce qu'il y a des projets de vraies cités vertes où il y a une vraie réflexion sur la valorisation des déchets, M. Kalimouan?
Le meilleur exemple des cités vertes, c'est le Ksal Tafilat.
Oui, donc, mais il y a c'est pas écrit cité verte, ouais, hein, c'est tout simplement.
Je connais aussi des villages dans différents villages d'Algérie où les gens s'impliquent. S'implique.
On a un contour du village le plus propre aussi.
Et tout
donc,
à fait.
Il y a quelque chose qui se fait, mais on a l'impression que c'est des expériences beaucoup plus associatives, collectives,
tout à fait.
Communautaires, qu'autre chose.
Justement, j'allais venir. Donc, il faut qu'il y ait une approche globale. Il faut qu'il y ait une approche globale, justement, pour que chaque région du pays soit considérée selon son contexte. Je vous donne un exemple.
Allez-y.
Merci beaucoup. Moi, de par mes fonctions antérieures, j'ai eu l'honneur et le privilège de visiter tout le pays. Et je peux vous assurer d'une chose. Ce qu'on génère au nord du pays n'est pas du tout le même au niveau du sud. Donc, il va falloir aussi revoir cette approche de mise en décharge aussi, de CET. Je vous cite le cas de Aïn Salah, par exemple.
Oui.
Moi, une fois, j'étais en mission là-bas. Moi, j'avais dit, c'est un peu aberrant de construire des centres d'enfouissement technique, d'autant plus que le déchet est dépourvu de matière organique.
Oui.
Il y a plus d'emballage que... Donc, une petite ligne de tri, ça va faire travailler les gens et éliminer l'enfouissement.
Éliminer l'enfouissement. Et comme nous sommes le 18 février, nous parlons de Ramadan el-Karim. On vous souhaite Ramadan el-Karim. On n'oublie pas que la radio se trouve au 21 Boulevard des Martyrs, Sharia Shuhada. Le 18 février, c'est la journée du Shahid. C'est parce qu'il y a eu leur sacrifice suprême que nous pouvons débattre en toute liberté, en toute démocratie.
Ana naqdar nqoul najahna ma fi hatta shak. Hadi ardna aishin fiha w ash'ab tana ra aish fi ardhu. El khawa, haqiqatan rahin tfarqou w kulkoum almin alash rahin tfarqou. لأن عنا قضية مهمة لتطلب لكل واحد منا الشجاعة وروح تضحية، ولكن كاينين الناس اللي ما لازمناش ننساهم أبدا، وهاد الناس هما الشهداء الأبرار الخالدون. بهذه المناسبة نطلب منكم تنجدوا معايا حد اثنين.
إخواني لا تنساوا شهداءكم من ضحاوا لحياة البلاد.
إخواني لا تنساوا شهداءكم هم ضحاوا لحياة البلاد. إخواني لا تنساوا شهداءكم هم ضحاوا لحياة البلاد. بالدموع والدماء وترابكم خلوا الأهل والصحبة مع الأولاد. صوتهم من القبور يناديكم اسمعوا لهذا الصوت يا عباد. الاتحاد عنواننا تضحية شعارنا حرية غاياتنا يحيى الوطن. للوطن نبيع كل نفوسنا لا نرضى أن نعيش الهوى. الاتحاد عنواننا
التضحية شعارنا حرية غاياتنا يحيى الوطن.
الله يرحم الشهداء. Nous leur devons tout, absolument tout.
إخواني لا تنسوا شهداءكم هم ضحوا لحياة البلاد بالدموع والدمار وترابكم خلوا الأهل والصحبة مع الأولاد صوتهم من القبور يناديكم اسمعوا لهذا الصوت يا عباد الاتحاد عنواننا تضحية شعارنا حرية غاياتنا يحيى الوطن الاتحاد عنواننا تضحية شعارنا حرية غاياتنا.